Bonne nuit sur France Inter.
Il est 4 heures, les informations, Salomé Pineda. À Cayenne, en Guyane, un homme a tué une adolescente et grièvement blessé sa mère. La jeune fille de 16 ans est morte sous les coups d'une arme blanche. Cet individu de 55 ans est le compagnon de la maman de la victime. La mère aussi se trouve actuellement dans un état grave. Ce féminicide présumé s'inscrit dans une série de plusieurs agressions mortelles survenues sur des femmes et des enfants dans le pays. Un grave accident d'hélicoptère au large du Japon cette nuit. Deux engins de forces japonaises d'autodéfense se sont écrasées en mer. Tokyo confirme l'information et le ministre de la Défense, Minoru Kihara, précise que ces hélicoptères participaient à un exercice nocturne de lutte anti-sous-marine. Seule une personne pour le moment a pu être secourue. Sept autres personnes sont pour le moment portées disparues. De l'autre côté du Pacifique, en Amérique latine, 34 militaires qui avaient été enlevés vendredi lors d'une opération contre les délits environnementaux. Elles ont été libérées ce samedi. L'armée indique qu'elles sont en bonne santé et disposent de tout leur équipement et de leur matériel. 95 milliards de dollars, c'est l'enveloppe colossale votée par le Congrès américain hier. Et elle va être largement distribuée à l'Ukraine pour plus des deux tiers. Cela faisait longtemps que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, l'attendait. Elle va permettre de renforcer l'artillerie qui manque d'obus notamment. Et puis parmi les autres bénéficiaires de ce plan d'aide massif, il y a Israël et Taïwan. Les élus américains mettent en place des stratégies pour tenir tête à la Chine. Ils ont également voté un texte qui vise à donner un ultimatum à TikTok. La plateforme doit couper ses liens avec la maison mère chinoise ou bien elle ne pourra plus exister aux États-Unis où elle comptabilise 170 millions d'utilisateurs. C'est une situation qui semble moins tendue. L'escalade entre Israël et l'Iran semble s'éloigner. Cette semaine a été marquée par une véritable montée des tensions après de nouvelles frappes de l'État hébreu vendredi contre l'Iran en riposte aux attaques sur son sol le week-end dernier. Les deux autorités se sont toutefois abstenues de commenter ces dernières attaques. On va siffler la fin de la récréation. C'est terminé, les mots de Marine Le Pen ce samedi à Mayotte. La députée RN est sur place ce week-end alors même que le gouvernement mène une opération Place Nette qui vise à lutter contre l'insécurité. Et puis côté foot, c'était la demi-finale aller de la Ligue des Champions féminines ce samedi soir. L'OL a renversé Paris, 3 buts à 2 inscrits à la toute fin du match face au PSG. La confrontation pour décrocher le ticket de finale, c'est au Parc des Princes pour le match retour.
Cette nuit sur France Inter, laissons la place aux idées. Voici l'heure philo avec Patricia Martin. L'heure philo. L'heure philo jusqu'à 21h. Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Gilles Gaillard à la console.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
Je dis toujours la vérité. Pas toutes. Parce que toute la dire, on n'y arrive pas. La dire toute, c'est impossible matériellement, sans les mots qui y manquent. C'est même par cet impossible que la vérité touche au réel.
Les mots manqueraient-ils pour dire la vérité, se demande Jacques Lacan dans cette archive qui date de mars 1974. La vérité, une affaire personnelle, à chacun sa vérité, comme l'écrivait Pirandello, mais c'est aussi une affaire publique qui touche la science et la politique. Notre invitée est philosophe, chercheuse au CNRS, membre de l'Institut Jean Nicot, CNRS École Normale Supérieure, École des Hautes Études en Sciences Sociales, et elle publie un livre chez Albin Michel, « La vérité est une question politique ». Bonsoir Gloria Origi.
Bonsoir.
Grande et vaste question que celle que vous posez. Une guerre aurait-elle éclaté contre la vérité? Une guerre que nous croyons nouvelle, qui en fait remonte à la nuit des temps, intrinsèquement liée à la philosophie occidentale. Platon déjà, écrivez-vous, était en guerre?
D'une certaine façon, oui, on pourrait dire que les rapports entre vérité et politique ont été toujours tendus, et Platon défend une vérité objective contre la parole des sophistes qui sont capables, avec leur rhétorique, de convaincre tout le monde et sans se soucier de l'objectivité et de la vérité. Donc en fait, il y a une guerre ancienne. On pourrait dire que la philosophie s'est construite comme discipline qui a un rapport privilégié avec la vérité, qui étudie qu'est-ce que la vérité, non seulement qui découvre des vérités comme les sciences, mais qui essaie de comprendre qu'est-ce que cette relation au monde très particulière, très spéciale que nous avons, qui nous fait dire que certaines choses sont vraies et d'autres ne le sont pas.
Alors, dans cet essai, vous voulez tenter de comprendre précisément le rôle de la vérité dans les sociétés démocratiques, ainsi que les relations entre science et politique. On va parler de tout ça et c'est pas fini. Il y a aussi la différence entre la persuasion politique légitime et la propagande. La vérité a investit le champ du politique, parce que je vous pose la question parce qu'on a quelquefois l'impression du contraire, c'est-à-dire que ça devient une nécessité politique, écrivez-vous, alors qu'en fait on a l'impression que non, que beaucoup de politiques font fi de la vérité, qui n'a jamais été une vertu des politiques, comme l'écrit Hannah Arendt.
Oui, si vous voulez, la question de ce livre a commencé à se poser dans mon esprit à partir, je dirais, de 2016, du Brexit et du choix célèbre de l'Oxford English Dictionnary, l'expression post-vérité comme mot de l'année. Et donc, il y avait une description de l'Oxford English Dictionary de post-vérité. C'est une condition dans laquelle les émotions et les états subjectifs sont plus importants pour établir les faits que, disons, les démonstrations ou l'objectivité, enfin. Et donc, il paraissait naître une forme de vérité alternative, de post-vérité, dans laquelle, au fond, ce qu'on on a considéré pendant des siècles vérité n'était plus pertinent. Qu'est-ce qu'on a considéré pendant des siècles comme vérité? C'est les choses que nous pouvons dire en ayant une démonstration, disons, rigoureuse de leur objectivité. Et en fait, le livre veut dire ça. Enfin, d'un côté, ce qui m'a surpris, disons, c'est pourquoi d'un coup on se préoccupe à ce point de la vérité, à tant d'inventer une expression qu'on pose vérité. Quelle était l'ère de la vérité qu'on regrette et qu'on a perdue? Au fond, pourquoi la vérité est devenue si importante? Comme vous dites justement, enfin, on a tous la sensation, enfin, de l'avoir un peu perdue.
Et puis il y a l'ère du soupçon, par exemple, dont on a beaucoup parlé, Nathalie Sarraute, mais pas que, tout le nouveau roman, ça tournait aussi autour
de l'idée.
Autour de ça.
Voilà. Et donc, ce que j'essaie d'argumenter dans les livres, c'est la vérité n'a jamais été une vertu politique, bien sûr, et en fait, on ne peut pas penser que les gens avaient plus d'accès à la vérité avant par rapport à aujourd'hui. Enfin, moi, je viens de l'Italie, comme on peut entendre. Après la Deuxième Guerre mondiale, en Italie, il y avait encore 70% de personnes illettrées, enfin, donc de personnes qui ne pouvaient ni lire ni écrire. Donc, aujourd'hui, Je ne sais pas le pourcentage des gens qui sont connectés en ligne, mais c'est quand même, en Europe, c'est autour de 70-75% jusqu'à 98% pour des pays comme la Norvège, etc. Enfin, tout le monde a accès à l'information, donc on ne peut vraiment pas penser rationnellement qu'on avait un plus grand accès à la vérité auparavant par rapport à aujourd'hui. Ce que je veux dire dans le livre, c'est que la vérité a changé. Enfin, notre rapport à la vérité a changé. On a compris que c'est un enjeu politique aussi, social aussi, de vivre ensemble aussi. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est produit d'une façon froide et détachée dans des laboratoires et qui ne touche pas à nos vies. Et donc, j'essaye tout simplement, sans donner beaucoup de réponses, mais plutôt en essayant de soulever des questions, j'essaye de comprendre qu'est-ce que ce rapport complexe aujourd'hui entre nos vies de citoyens et cette notion de vérité qui nous semble si importante. Enfin, on ne parle que... Enfin, le 2024 est une année particulière. Il y a des élections partout dans le monde. On ne parle que du risque des fake news, de désinformation. Donc, un rapport, disons, angoissé au risque de perdre la vérité. Et donc... J'analyse ce nouveau rapport à la vérité que nous avons et que la politique aussi doit avoir. Enfin.
Alors un texte de Nietzsche lu par Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences, c'était au cours d'une conférence et c'est une archive qui date de décembre 2022.
Nietzsche écrit « La science donne beaucoup de satisfaction à celui qui consacre son travail et ses recherches, mais elle en donne fort peu à celui qui en apprend les résultats. » Mais comme toutes les vérités importantes de la science ne peuvent que devenir peu à peu banales et communes, même ce peu de satisfaction disparaît. C'est ainsi que nous avons depuis longtemps cessé de découvrir le moindre plaisir à apprendre la table d'addition, pourtant si admirable. Si donc la science donne de moins en moins de plaisir et en ôte toujours davantage en jetant la suspicion sur la métaphysique, la religion et l'art qui, eux, consolent, voilà appauvrie cette source de plaisir. Et il termine en disant « Si l'on n'y prend pas garde, le goût du vrai va disparaître au fur et à mesure que la vérité garantira moins de plaisir. L'illusion, l'erreur, la chimère vont reconquérir pas à pas, parce qu'ils s'y attachent du plaisir, le terrain qu'elles tenaient autrefois. La ruine des sciences, la rechute dans la barbarie en seront la conséquence immédiate. L'humanité devra se remettre à tisser sa toile comme l'avait fait Pénélope. » Mais qui nous garantira qu'elle en retrouvera toujours la force ?
C'est donc signé Nietzsche. Le goût du vrai, Gloria Origi, doit être attaché au plaisir, simplement pour qu'on se tourne vers lui, vers la vérité. Donc du vrai, le vrai, c'est la vérité.
Oui, c'est une très belle citation que je ne connaissais pas, en fait, j'avoue, de Nietzsche. Nietzsche a un discours assez... disons négatif sur la vérité, surtout dans la série d'aphorismes consacrés à la science.
Ce qu'il pense au fond, c'est que la vérité scientifique, c'est une volonté de puissance aussi,
voilà,
c'est le fait de dominer la réalité.
Exactement. En fait, c'est ce qu'il exactement. Pense. Ouais. Et donc voilà, il dit au fond, derrière la vérité, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on dit vérité, enfin, au fond, il n'y a pas une objectivité absolue, enfin, une réalité qui serait objective. Il y a notre volonté de puissance, notre volonté de dominer le monde. Et ça donne de la jouissance. Donc Nietzsche fait partie des philosophes qui essaient un peu de se débarrasser de la notion de vérité. Au fond, la vérité, ce n'est que un point de vue gagnant, enfin un point de vue qui a gagné. Et c'est à partir de Nietzsche d'ailleurs qu'on fait remonter toute une tradition, disons relativiste, sur la vérité. Au fond, chacun peut avoir sa propre vérité. Le discours est plus important que les faits. Et donc, moi, je ne veux pas dans les livres me révolter contre cette tradition. Le premier chapitre est consacré à beaucoup de traditions philosophiques, y compris la tradition nietzschéenne, qui font un peu, qui mettent un peu en question la notion de vérité. Et je pense qu'un certain relativisme est probablement nécessaire aujourd'hui, ne pas penser qu'il y ait une vérité absolue qui vaut pour tout le monde, mais je reste une réaliste, donc je reste quelqu'un qui pense qu'il y a des lieux de production de la vérité, qui sont des lieux qui ont des méthodologies qui sont particulières, et que ce n'est pas vrai que toute vérité se vaut. Enfin,
et Pénélope n'a pas fini de tisser sa toile, comme d'ailleurs Nietzsche le dit, et vous citez le philosophe américain Willard Van Orman Quine, qui écrit, alors je le cite, « L'étoffe de la vérité est grise, noire de faits et blanche de conventions, mais je n'ai jamais trouvé le moyen pour distinguer les fils noirs des fils blancs. »
Oui, c'est exactement ma position. D'ailleurs, mon premier livre était consacré à ce philosophe, à Quine, premier livre que j'ai publié en italien d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Même dans les structures les plus profondes de production de la vérité, comme les théories scientifiques, il y a la capacité des théories à saisir certains faits, mais à travers l'établissement de toute une série de conventions qui sont des choix. Justement, que sont des choix humains, des conventions relatives. On peut construire des théories d'une façon très différente et on aurait une réalité qui est différente. Enfin, ce que nous pouvons dire du monde, comme pour reprendre la première citation de Lacan, c'est toujours partiel. Enfin, on ne peut pas tout dire. On n'a pas une cartographie de la réalité qui est unique et qui peut nous rendre tous les faits. Ce qu'on peut dire, ça dépend beaucoup de nos valeurs, de la culture de notre époque, de ce qu'on peut dire et ne pas dire à une certaine époque, etc.
Donc c'est aussi ce que pense Michel Foucault, par exemple. Hein,
voilà, et donc la science reflète aussi cette partialité de point de vue. Mais disons, là aussi, je discute Foucault dans les livres. Je trouve que ses écrits épistémologiques ont été très utiles dans mon travail. Enfin, l'ordre du discours, qui est la conférence inaugurale au Collège de France lorsqu'il commence sa chaire au Collège de France, c'est un texte très limpide, vraiment sur ces questions-là, sur les questions de ce qu'on peut dire et ne pas dire. Enfin, c'est que la vérité, au fond, est un dispositif qui permet d'exclure certains discours. Et moi, je suis absolument d'accord avec Foucault, mais je ne veux pas, là aussi, comme avec Nietzsche, je ne veux pas tomber dans un excessif relativisme. Même si la vérité est une façon d'exclure certains discours, ce qui est absolument vrai, enfin je veux dire, on exclut normalement à la radio ou dans les universités les discours terraplatistes qui nous disent que la Terre est plate. Enfin bon, c'est les gens ont le droit de le dire, enfin ils ont le droit de dire la Terre est plate, mais enfin on ne le considère pas comme un discours qui fait partie de l'épistémé que nous fréquentons aujourd'hui. Enfin. Donc, même si je suis d'accord avec ça, je suis convaincu que il y a des moyens, disons, de construire la vérité qui sont plus solides par rapport à d'autres. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Ce n'est pas un livre particulièrement pessimiste. Enfin, je pense qu'il faut faire très attention aux moyens qu'on emploie, enfin, pour construire la vérité.
Alors, vous citez, enfin, vous, à un moment donné, vous l'évoquez, Bruno Latour, qui s'est aussi intéressé à la question, sociologue, anthropologue, théologien et philosophe des sciences. C'était sur Arte en 2022.
Le laboratoire est un lieu artificiel, et parce qu'il est artificiel, il peut établir des faits assurés. Donc ça, c'est ça qui m'a passionné. Parce que vous arrivez, disons, nourri de d'épistémologie classique sur la science avec un grand S, et puis vous vous apercevez de cette chose absolument merveilleuse, c'est que c'est parce que c'est artificiel, c'est parce que c'est des lieux très précisés, rares, des lieux rares, une découverte c'est quelque chose de très rare, que vous arrivez à des certitudes. Le laboratoire permet quelque chose qui est une contradiction admirable, c'est-à-dire que c'est vrai, on produit de l'objectivité et c'est fabriqué. Voilà, c'est un problème philosophique gros comme ça, qui a été traité par l'épistémologie depuis 300 ans. Comment on arrive à la vérité scientifique, etc., etc. Et moi, je fais mon détour habituel, qui va devenir une habitude, c'est de me dire, si on veut répondre à une question philosophique aussi passive, il faut un terrain, il faut un lieu. Donc, c'est un problème gigantesque, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut lier dans la même phrase « c'est fabriqué » et « c'est vrai » et comment on le traite, cette question. Et donc, moi, je le traite en disant, allons voir l'expression de Michel Foucault, comment c'est fait, comment ça se fabrique, allons voir. Ce qui est passionnant dans l'étude de terrain, ce que seule l'étude empirique permet, c'est que ce qui est un problème philosophique, en gros insoluble, comment est-ce qu'on arrive à la vérité scientifique, il est empiriquement étudiable.
Et comment est-ce qu'on fabrique donc un fait scientifique, hein? C'est la question que pose Latour.
C'est une vraie question, c'est une ancienne question en philosophie et en philosophie des sciences. Enfin, c'est très bizarre, la vérité est très compliquée. Mm-hmm. Les théories scientifiques sont très compliquées. Même le langage est compliqué. Ça veut dire qu'on peut dire quelque chose en impliquant, par exemple, quelque chose d'autre ou son contraire. Et donc, même une phrase limpide, simple peut cacher des significations qui sont complexes ou contradictoires. Et tout ça, c'est ce qu'on étudie, nous, enfin, c'est ce qu'on fait, c'est notre métier d'étudier ces bizarreries de la philosophie, de la science, du langage, de ce rapport. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, qu'il est vrai que vous avez un livre sous vos yeux. Enfin, pourquoi vous pouvez penser que le fait d'avoir un livre sous vos yeux, mon livre dans ce cas, est vrai. C'est une question bizarre, très bizarre, mais en fait, c'est la question, disons, de fond de la philosophie. Et lorsque vous allez dans un laboratoire scientifique, vous vous rendez compte, enfin, que c'est très indirect la façon à travers laquelle on arrive à montrer, démontrer une certaine vérité. On fait des manips, des procédures qui semblent absolument détaché du résultat que vous pourrez après exprimer en une phrase comme les bosons de Higgs existent, etc. Vous ne voyez pas les bosons de Higgs.
Et on ne se rend pas compte à quel point la science est aussi, elle n'est pas séparée en fait de la société. Elle a aussi ses propres pressions et comment elle a besoin au fond de la politique pour se construire aussi la science.
Oui. Oui, ça, absolument, absolument. Et des valeurs, et des morales, et elles dépendent de la culture d'une époque. Enfin, je fais l'exemple dans le livre de la craniométrie. Enfin, la craniométrie est une science qui a engendré aussi des résultats scientifiques intéressants, mais c'était une science fondamentalement fausse, pratiquée par des gens qui sont considérés encore des grands scientifiques en France, Broca ou Cuvier, et d'autres. Et au fond, c'est une science qui dépendait des préjugés de l'époque. Que
parce qu'en pesant un cerveau, par exemple, c'est ce que faisait Broca.
Voilà, on mesurait le poids et la taille des cerveaux pour en déduire que les femmes étaient moins intelligentes que les hommes, les noirs étaient moins intelligents que les blancs, les italiens étaient moins intelligents que les français, les juifs étaient moins intelligents que les italiens, enfin, des données complètement délirantes. et délirantes qui se sont montrées complètement, complètement intenables. Mais on voit très bien qu'une une discipline entière peut être établie à partir d'idéologies, de stéréotypes, de valeurs qui sont présentes à une époque. Aujourd'hui, on ne pourrait même pas commencer un programme de recherche qui est basé sur des différences, parce qu'il y a un dogme de l'égalité, et peut-être c'est juste un dogme moral, et c'est très bien qu'il existe ce dogme moral, mais peut-être scientifiquement, enfin il y a plein de scientifiques qui ne pensent pas que les êtres humains soient tous égaux, mais bien sûr après les désastres de la guerre, après tout ce qui s'est passé au XXe siècle, heureusement il y a ce dogme morale qui oriente énormément la recherche. Ça veut dire qu'on financera jamais un projet qui va chercher des différences entre groupes, entre populations, etc. Donc, bien sûr, la science est une construction culturelle, sociale, politique, etc. Néanmoins, elle arrive à toucher, disons, le nerf du monde, ça veut dire des faits qui sont objectifs.
Jacques Dutronc sur France Inter, l'opportuniste.
Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Qui proteste, moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs, je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre.
Gloria Origi est ce soir l'invitée de L'Heure Philo pour son essai publié chez Albin Michel, La vérité est une question politique. Tiens, au sujet de la vérité, Jacques Derrida, c'est une archivina qui date de juin 1990.
Il faut s'attendre à ce que la vérité ait des limites, et prendre acte de ces limites ne veut pas dire, naturellement, donner congé à la vérité, conclure il n'y a plus de vérité. Mais essayer de penser ce que peuvent être des limites de la vérité. Et c'est une question qui traverse tout l'essai. Maintenant, s'attendre aux limites de la vérité peut laisser porter l'insistance sur le s'attendre. C'est une expression merveilleuse, s'attendre. Hein. Elle est intraduisible, hein, avec cette sorte de double jeu du S apostrophe. On peut, en français, on s'attend à. Et ça, dans, à mon avis, dans aucune autre langue, on ne trouve ce S apostrophe qui n'est pas simplement réfléchi. Et puis, on peut s'attendre soi-même. Peut-être que dans l'expérience de la mort, de l'attente, de l'anticipation de la mort, on s'attend soi-même. C'est soi-même qu'on attend au moment de la mort. Rendez-vous avec soi-même, hypothèse. Et puis, s'attendre les uns les autres. À ce moment-là, le S n'est plus simplement réfléchi. Et on s'attend les uns les autres, ou l'un l'autre, ou l'une l'autre, ou aux limites de la vérité.
C'est beau, hein, ce que dit Jacques Derrida. Oui. Est-ce qu'il faut, Gloria Origi, s'attendre à ce que la vérité, pour qu'il y ait vérité, il faut que ce soit partagé par tous? Est-ce que c'est comme ça qu'une vie politique peut être saine?
C'est ce que je conclus dans les livres. Enfin, la vérité n'est jamais individuelle. Enfin, c'est... Et aujourd'hui, à cause de plein de choses, enfin, les différentes façons que nous avons de communiquer, un certain modèle individualiste de la personne humaine qui est typique du libéralisme, des sociétés libérales dans lesquelles nous vivons, on a l'idée que les vérités sont... La vérité, c'est quelque chose qu'on atteint tout seul. Enfin, c'est jamais comme ça. Les vérités sont la vérité est une notion collective, et c'est ça que j'essaie d'argumenter, enfin, dans les livres, les faits. Justement, j'ai bien aimé la citation de Bruno Latour. C'est un travail compliqué, enfin, c'est énormément artificiel. Heureusement que les gens ne rentrent pas souvent dans les laboratoires parce qu'ils penseraient d'être chez les fous, enfin, parce que on fait plein de choses bizarres, on recherche des choses bizarres, on parle.
Et on a ensemble, un esprit très hypothétique, j'imagine.
Voilà,
aussi,
exactement, mais disons, et c'est très joyeux d'ailleurs. Mais je veux dire, enfin, c'est quelque chose, c'est comme justement la toile de Pénélope, un tissu, une toile de fond dans laquelle nous baignons tous et qui se montre sous certains visages de temps en temps, pas toujours dans la plénitude, enfin, c'est très rare d'avoir, peut-être devant une illumination, mais c'est très rare d'avoir la vérité en face, tout ensemble. Enfin.
Mais c'est important que toutes les informations puissent circuler, même si elles sont extravagantes, même si elles sont erronées, parce que là vous parlez beaucoup de John Stuart Mill, dont vous dites d'ailleurs que son essai sur la liberté devrait être étudié dans toutes les écoles.
Oui,
l'erreur
oui.
est nécessaire, elle est utile, c'est ce qu'il montre dans cet essai.
On est en ce moment acharné à essayer d'extirper les faux, par exemple, d'Internet ou de la circulation. Il y a une nouvelle forme d'angoisse collective pour les fake news, pour les faux, pour le risque d'être exposé à l'erreur. Mais en fait, ce que nous savons, ce que nous croyons savoir, très souvent, c'est des certitudes un peu endormies. Moi, je crois que il y a eu un débarquement sur la Lune en 69. Mais enfin, pourquoi je le crois? Parce que ma maman me l'a dit à l'époque. Enfin, j'ai très peu de données ou d'évidence pour le croire. Et si quelqu'un me dit que la Terre est plate, etc., ou que le débarquement sur la Lune n'a pas eu lieu, ça me sert pour faire ressusciter un peu cette croyance que j'ai et trouver des arguments pour dire pourquoi je le crois. Et on croit plein de choses parce que c'est un peu... Voilà, c'est des certitudes qu'on a, qui circulent, qui font partie du sens commun. Et donc, ce que je dis, c'est que la présence de l'erreur est très utile à au réveil de la vérité, à faire éveiller la vérité. Et de l'autre côté, je pense que c'est très bien d'avoir des algorithmes aujourd'hui qui essayent justement de nettoyer un peu les réseaux sociaux, l'Internet, des fake news, etc. Ça, je comprends. Mais disons, ce n'est pas ce qui me fait le plus peur que les gens soient exposés à la fausseté. Ça veut dire que si on apprend à comprendre comment la vérité est faite, comment elle est construite, on apprend aussi à reconnaître ce qui est faux, enfin, la mauvaise information.
Le romancier, poète et dramaturge Raymond Queneau, c'est une archivina de 1948.
Je ne pense pas que le langage soit un absolu, enfin que la vérité soit dans le langage. C'est-à-dire qu'en décortiquant le langage, on trouve la vérité, mais qu'au contraire, le langage n'est pas fait pour transmettre des valeurs de vérité. Alors, comme quand même j'essaie d'être vrai, enfin que comme tout le monde, enfin sauf les menteurs professionnels, enfin comme quand même on essaie de dire quelque chose qui ressemble le plus près à la vérité, je souffre beaucoup d'avoir à parler comme ça, enfin parce que précisément je ne vois pas la limite où je trouve le passage d'un petit peu de vérité à un peu plus de vérité. D'ailleurs, ça va même jusqu'à, je ne dirais pas que c'est une théorie, mais ce sentiment que le langage n'est pas fait pour transmettre des valeurs de vérité, pour moi, ça semble c'est légitimé par le fait que l'origine du langage, c'est dans l'effort du malade pour expliquer sa maladie. Je trouve que c'est l'échange, le dialogue, enfin, le plus pathétique, c'est celui du malade et du médecin.
Alors c'est étonnant ce que dit Raymond Queneau, parce que ça voudrait dire que le langage est un piège, qu'en fait il n'est pas fait pour la vérité. C'est quand même bien ça qui nous permet de nous comprendre les uns les autres, le langage.
Disons que le langage a ce pouvoir extraordinaire, qu'il peut dire le vrai et le faux. Donc le pouvoir extraordinaire du langage, c'est le pouvoir du mensonge. Ça veut dire que je peux manipuler les autres, je peux leur faire penser, je peux manipuler leurs pensées. Alors, par exemple, le mensonge dans le règne animal, il y a des discussions sur ça, mais enfin, il existe très peu. Enfin, il y a des formes qui pourraient, mimétisme, etc., ouais. qui peuvent rappeler le mensonge, mais enfin, la possibilité de manipuler les pensées des autres à travers un mensonge est typique du langage. Donc le langage est ce système symbolique puissant qui sert sûrement en partie pour véhiculer de l'information, mais ce n'est pas son seul but. Enfin, le but primaire, c'est celui de la communication. Communiquer, ce n'est pas seulement communiquer de l'information, c'est aussi faire des alliances, c'est aussi convaincre, c'est aussi persuader. Et donc, il y a beaucoup d'usages du langage qui vont bien au-delà de la description de la réalité. Enfin, nous pouvons décrire la réalité avec les langages, mais ce n'est pas sa fonction principale.
Alors, il y a tout un volet de votre réflexion, Gloria Origi, qui est consacré aux experts. Et vous racontez, et Dieu sait s'ils sont omniprésents dans nos sociétés actuelles, votre intérêt pour leur rôle, racontez-vous, remonte à 2003, c'est quand les États-Unis et la Grande-Bretagne ont déclaré la guerre à l'Irak. C'est là que vous avez dit, tiens, là, il y a un truc qui ne va pas. C'est ça ?
Si vous voulez, c'était assez bizarre, parce que il y a eu, si vous vous souvenez, enfin les plus jeunes ne se souviendront pas, mais enfin il y a eu vraiment une espèce de dimension épistémologique de cette guerre. Enfin, les guerres normalement ne sont pas vraiment un terrain épistémologique très intéressant. Enfin, c'est plutôt le terrain des valeurs, de l'action, de la décision, mais pas justement de la vérité. Et dans ce cas-là, il y avait cette recherche des armes de destruction massive en Irak, et c'était ça, et c'était l'évidence des armes de destruction massive en Irak qui aurait pu justifier la guerre. Déjà, ça me semblait très bizarre, pourquoi ce poids sur un fait. En fait, parce qu'ils avaient besoin de justifications, c'était clair que les États-Unis voulaient faire la guerre pour toute autre raison, mais il y a eu vraiment une espèce de théâtre épistémique où il y avait les experts du nucléaire qui venaient vérifier, Hans Blix, un et l'autre, je ne me souviens plus, et qui disait, bon, on ne trouve rien. Puis il y avait les experts américains, puis il y avait les experts anglais. Bon, à la fin, on produit un dossier qui est un dossier complètement gonflé avec des choses fausses dedans, des plagiats, enfin, des textes avaient été récupérés du web pour montrer qu'il y avait des armes.
Et pour servir, au fond, l'autorité politique.
Voilà, et donc Colin Powell fait ses célèbres discours aux États-Unis en disant, bon, on va en guerre avec une série de photos sur un PowerPoint qui montrait, selon lui, l'existence de ces armes. Et donc, il y a pas mal de questions, disons, d'ordre, vraiment d'ordre de vérité. Donc, ils savaient qu'ils étaient en train de mentir, ils n'avaient pas les données. Les dossiers étaient faux, en partie, et avec ce grand mensonge, ils décident quand même d'aller en Irak. Ça m'avait énormément frappé.
Étienne Klein, à nouveau lui, c'est sur Brut, c'était en 2021, sur, alors je prends mon élan pour dire le mot que je ne connaissais pas, l'ultra-crépidarianisme. C'est le fait de donner son avis sur des sujets à propos desquels on n'a aucune compétence. Ça vient, parce que j'ai cherché, ça vient d'une locution latine. Et ça veut dire en fait, ça peut se traduire par chacun son métier, et les vaches seront bien gardées. Étienne Klein.
L'ultra-crépidarianisme, c'est un mot savant pour dire que souvent, on parle avec assurance de choses que nous ne connaissons pas. Moi, j'ai noté cette tendance-là au tout début de l'épidémie. Je rentrais du Chili et en arrivant en France, alors que le confinement avait commencé depuis quelques jours, je voyais des tweets écrits par des personnalités politiques, parfois de très haut rang, qui commençaient par « je ne suis pas médecin, mais je pense », etc. Et après cette déclaration honnête d'incompétence, s'ensuivaient des injonctions sur ce qu'il fallait faire ou penser à propos de tel ou tel traitement. Nous sommes tous appelés à être victimes de cet ultra-crépidarianisme. Quand vous conversez au café avec vos amis, vous dites des choses qui vont au-delà de vos compétences. C'est tout à fait naturel dans la conversation. Simplement, il faut en avoir conscience. Et quand on a une parole publique qui peut avoir des effets politiques importants, eh bien, il faut être prudent. L'idée, c'est pas du tout de dire que chacun est contraint dans sa liberté à laisser la parole aux experts. En fait, en démocratie, n'importe qui a le droit de poser une question aux experts, de les interpeller, de les interroger. Mais c'est pas ce qui est fait, là. C'est on donne son avis sans savoir. Nous avons tendance à écouter ceux qui parlent de tout. Comme s'ils nous rassuraient, comme si des gens qui ont des formes de certitude, une forme d'arrogance aussi, nous rassurait dans une période d'incertitude. Dans les mêmes canaux de communication, circulent aujourd'hui des connaissances, scientifiques ou autres, des informations, des commentaires, des opinions, des fake news. Et le fait que toutes ces choses circulent dans les mêmes canaux fait que leurs statuts respectifs, qui sont pourtant très différents, se contaminent.
Alors, on parle de ce qu'on ne connaît pas, mais il y a aussi le fait, et ça, vous en parlez, Gloria Righi, dans votre essai, c'est qu'on délègue aux experts une responsabilité qui, peut-être, pourrait ne pas être la leur, dans certains cas.
Le vrai problème avec les experts, c'est non pas le fait que nous devons leur faire confiance parce que
Eux savent et nous ne savons pas.
Du Covid, par exemple, oui. C'était clair. Enfin, on ne savait rien de ce virus.
Mais pourtant, en démocratie, oui. Aucune voix ne devrait être supérieure à l'autre.
Donc, le vrai problème des experts, c'est que nous ne savons pas reconnaître qu'est-ce qu'un expert. Enfin, nous n'avons pas étudié comment reconnaître qu'est-ce qu'un expert. Donc, là, c'est plus grave, enfin, parce que personne ne demande. Enfin, il y a une division du travail cognitif dans nos sociétés, donc on sait bien que on n'est pas expert de tout. Justement, le savoir est collectif. Donc, il y a quelqu'un qui sait comment trier une vache. Il y a quelqu'un. Et moi, je ne suis pas capable. Il y a quelqu'un qui sait trouver les citations de Nietzsche. Et voilà. Et on vit très bien avec cette distribution, cette division de travail cognitif. Donc, personne ne demande aux gens mais de en savoir plus. Même s'il y a des tendances aujourd'hui, des gens qui disent, bah, justement, il faut que les enfants étudient plus de sciences, il faut que les gens savent plus de politique pour pouvoir arriver à voter avec de l'information. Mais enfin, c'est très difficile de comprendre quelles sont les connaissances que vous devez avoir pour être mieux fourni devant une élection, devant une maladie, etc. Enfin, il y a beaucoup de connaissances, par exemple, sur la politique. Je peux ne pas connaître le nombre exact des parlementaires à l'Assemblée, mais je peux connaître très bien mon territoire et savoir que pour mon territoire, il faut une route ici ou là, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre aux gens pour les rendre plus experts? Non, le vrai problème, c'est que on n'a aucune idée de comment sélectionner un expert. Et les médias nous aident pas trop, enfin très souvent
on invite
les gens qui sont pas, moi quand je vois les philosophes qui sont invités par exemple, parfois je dis mais pourquoi, enfin ils sont,
mais vous vous êtes amusé à mesurer, ça m'a beaucoup fait rire,
là, je me
le
suis
niveau
vraiment
du prestige et de la réputation en Italie, en France et en Grande-Bretagne
sur les comités du Covid,
voilà
et donc ça c'est quelque chose que moi je suis une experte d'experts, donc moi je suis quelqu'un qui est capable de faire des choses sans savoir rien du Covid. Enfin, je sais très bien quand un comité est bidon ou quelqu'un a été mis là-dedans parce qu'il est ami d'un ministre, etc. Ou quand un comité est bon parce que je sais comment aller chercher les niveaux de citation, etc. Et donc, dans ce cas-là, dans le cas de ce petit travail que j'ai fait avec un ami économiste italien, Andrea Goldstein, on voyait qu'il y avait eu vraiment une grande opacité dans la sélection de ces experts. Clairement, il y avait une composante politique importante, surtout en France et en Italie. L'expertise le plus de haut niveau en termes scientifiques était en Grande-Bretagne. Et bon, voilà, on pouvait conclure beaucoup sur ces trois pays.
La vérité est une question politique, vous l'avez dit.
Nous sommes des êtres fabulateurs. On raconte des histoires, on entend des histoires, c'est un des besoins. Mais il y a une différence entre l'attitude normale, humaine, à entendre des histoires, qui est commune à toute l'humanité, à toutes les civilisations, à toutes les mythes. Et l'enfant, comme il commence à parler, veut entendre des histoires. Le fait de raconter des histoires, tout le monde raconte des histoires. On ne s'en aperçoit pas, mais de, ah, comment ça va, ah, si tu savais ce qui s'est passé ce matin, je suis sorti et tout à coup on raconte une histoire. On ne s'en aperçoit pas, mais si tout à coup il y avait une loi qui nous interdisait de raconter des histoires, notre vie deviendrait quelque chose d'invivable, de terrible. Nous racontons toujours des histoires.
C'était Umberto Eco, une archivina de 2005 que vous écoutez, je vois, Gloria Origi, avec plaisir. Vous l'avez bien connue.
Oui. Oui, je l'ai connu en Italie, à Milan, d'où je viens, et à Bologne, où il enseignait, où j'ai travaillé, et c'était une très belle rencontre dans ma vie.
On croit aux histoires qu'on vous raconte. Il vaudrait mieux ne pas croire aux absurdités, en fait. C'est ça.
On croit aux histoires qu'on nous raconte. Selon la façon dont on les raconte, il y a des techniques narratives. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de narratives en général, de narratives en anglais, des discours qui sont très séduisants, des discours politiques qui sont très séduisants. Donc, Eco, par exemple, était quelqu'un qui était très bien à raconter des histoires dans ses romans, à faire plaisir au public, à séduire. Et on sait bien que le discours sert aussi à ça, sert à séduire, et donc certaines fois, la séduction est plus forte que la vérité, justement comme la citation de Nietzsche que vous avez transmise au début de l'émission. Enfin, les vérités scientifiques sont un peu froides, quoi. Elles ne donnent pas beaucoup de plaisir, enfin, tandis qu'une histoire bien racontée, parfois, c'est presque plus agréable de croire à une histoire que de voir la vérité. Le principe de réalité, parfois, est très décevant.
La vérité est une question politique. Alors ça, je peux vous dire que votre livre, en tout cas, n'est pas du tout décevant. Nous l'avons lu avec énormément de plaisir dans l'équipe. Gloria Origi, merci. C'est publié chez Albin Michel.
Merci
beaucoup.
Merci.
Vous en voulez encore? Toutes les émissions de L'Heure Philo sont disponibles en podcast sur franceinter.fr et sur l'application Radio France.
Serré dans le métro, serré au cou, je défais mon col. État du jour impliqué, les marques sous les visages ont des marques. Pas assez de richesse, trop de désir, pas assez de bonheur pour tout le monde. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Il paraît que le bonheur, c'est du vol. Passe le sang à l'heure, il faut bien que quelqu'un meure. Je remonte chez moi, j'allume les infos, se plonge tout droit dans les égouts. Je regarde l'heure, tu n'es pas là. J'imagine ce qui pourrait arriver, non, n'imagine pas. Dehors, il pleut sur ceux qui n'ont rien, serré dans les tentes sous le métro aérien. Ferme les yeux, déjà non, ne les ferme pas. Je fais des heures sup d'amour.
Je sors sur le balcon, tout est englouti par l'horizon. Une sirène au loin, c'est presque demain. Il paraît que le lithium se dissout dans les étoiles. Il paraît que le soleil se lèvera un jour pour tout faire cramer, pour de bon lance-fleurs. D'amour. Il parle que le bonheur, c'est du vol. J'fais des airs sup d'amour. J'fais des airs sup d'amour. Il parle que le bonheur, c'est du vol.
À suivre après le journal, notre sélection de documentaires. Des vies françaises de Charlotte Perry et Secrets d'info de Jacques Monin.
Once upon a time, a wild god zoomed all through his memory, in which he was entombed. And he flew out the window with his long trailing hair, and the smoke from the bodies went straight up. He was a wild god searching for what all wild gods are searching for. And he flew through the dying city like a prehistoric bird. He went searching for the girl down on a Jubilee Street, but she died in a bedsit in 1993. So he flew to the top of the world and looked around and said, where are my people? Where are my people to bring your spirit down? Searching for a faraway girl who was basically a mirage that nevertheless loomed large. She would hang under the rail as he blew round the room and make love with a kind of efficient gloom. 'Cause I'm a wild god flying and a wild god swimming, and I'm an old sick god dying and crying and singing.